Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international qui vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Léa Sabourin, Samuel Bernard, Maëlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierre Fossillon. Troisième temps de notre série consacrée à la police. Lundi, nous évaluions les violences policières à l'aune des différentes techniques de maintien de l'ordre en Europe. Hier, c'était la question raciale et les discriminations à l'égard des minorités afro-américaines aux États-Unis. Aujourd'hui, penchons-nous sur la corruption qui entraîne tant de dérives dans la police de Mexico à Rio quand les flics se font gangsters. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Autre cambio importante.
Un autre changement important sera celui de la création d'une garde nationale, si le peuple et le pouvoir législatif l'autorisent, pour faire face aux graves problèmes de l'insécurité et de la violence dont nous souffrons. Cela signifie repenser le rôle des forces armées face à l'inefficacité des différentes forces de police. Force est de constater que la police fédérale, créée il y a 20 ans pour suppléer les forces armées dans le combat contre le crime et composée d'à peine 20 000 hommes, manque de discipline et de professionnalisme. Quant aux agents des ministères, des forces de police d'État et de police municipale, il faut bien reconnaître que, sans trop généraliser, nombreux sont ceux qui se tournent vers la corruption et ne sont donc plus animés par le devoir de servir l'État. Par conséquent, ils tombent dans la délinquance et le crime.
Extrait du discours que vient d'entendre à l'instant, discours d'investiture d'Andrés Manuel López Obrador, le nouveau président mexicain qui abordait cette question de la corruption inhérente à la police. Il y a quelques jours, les autorités mexicaines ont présenté les chiffres d'homicides et l'année 2018 a été marquée par un record historique, 33 341 meurtres. C'est presque 5 000 de plus que l'année précédente et c'est le bilan le plus élevé depuis les premières statistiques enregistrées il y a plus de 20 ans. Si les policiers ne sont pas les seuls responsables d'une situation de violence généralisée depuis de longues années au Mexique, il n'en demeure pas moins qu'ils participent assez largement au cycle de violence et que le politique semble bien incapable de l'enrayer. Andrés Manuel López Obrador, le président nouvellement élu, progressiste, figuriste, historique de la gauche mexicaine, promet à son tour une vaste réforme de l'institution policière, mais ses chances semblent fragiles. Que pourra-t-il faire de plus que ses prédécesseurs? Comment mettre un terme au réseau complice qui gangrène l'institution policière? Et comment ne pas sombrer, lui aussi, dans une militarisation dangereuse pour le pays? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Romain Lecourt, Grand Maison. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, doctorant en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous finissez une thèse sur les groupes criminels de l'Ouest mexicain et vous êtes par ailleurs co-président du think tank Noria Research. Et j'indique pour nos auditeurs également que vous avez co-dirigé avec Jacobo Grajales l'État malgré tout. Produire l'autorité dans la violence, c'était chez Cartala il y a quelques jours. Vous l'avez entendu, Romain Lecourt Grand Maison, le nouveau président a été investi, donc c'était le 1er décembre dernier. Il avait été élu sur des promesses très fortes en matière de lutte contre la violence et contre la corruption, les deux phénomènes étant, on va le voir, intimement liés. Durant la campagne, AMLO avait promis le retour des militaires dans la caserne. Et puis finalement, quand il a été élu, il annonce, on l'entendait à l'instant, la création d'une garde nationale regroupant militaires et polices fédéraux. 50 000 personnes devraient être recrutées pour atteindre un effectif total de 120 000 personnes. Pourquoi ce virage à 180 degrés, Romain Lecourt Grand Maison? Est-ce que finalement, AMLO n'est pas exactement dans le sillage de ses prédécesseurs, à savoir cette logique de la militarisation de la lutte, alors qu'il avait promis quelque chose de totalement différent?
Je pense que effectivement, ce qui est important de rappeler, c'est que le débat sur la police aujourd'hui au Mexique est le grand débat central. C'est le grand débat de sécurité publique dans un contexte que vous rappeliez à l'instant.
Ça
fait plus de 10 ans que c'est le cas. Chaque année qui se succède est l'année la plus violente de l'histoire du Mexique. C'était le cas en 2017. C'était le cas donc en 2018. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le décalage entre le discours et les discours de campagne d'AMLO, qui étaient de dire l'armée doit se retirer de ses tâches de sécurité intérieure, donc de ses tâches de patrouille et de police, pour être remplacée par des forces civiles. Quelques jours après son investiture, il prend le contre-pied parfait de cette promesse. Ce qui déclenche quand même une vague de réactions assez importante dans le pays, notamment dans ses soutiens, et qui finalement, comme vous le disiez, rejoint une politique qui est continuelle depuis maintenant 12 ans au Mexique et depuis bien avant, qui est celle de l'utilisation de l'armée sur le territoire national pour lutter contre la violence.
On va revenir justement sur cette politique qui a lieu maintenant au Mexique depuis une douzaine d'années maintenant, mais pourquoi ce virage? Parce que quand on regarde un peu les promesses qu'il avait faites durant la campagne, il y avait des choses extrêmement différentes des solutions proposées par ses prédécesseurs. Il y avait des éléments sur la légalisation des drogues, il y avait des éléments sur l'amnistie pour les petits Africains, les petits narcotrafiquants, pardon. Il y avait des choses sur l'emploi et l'éducation des jeunes. Tout cela s'est oublié, s'est balayé?
Je pense pas que ce soit complètement oublié. Et par ailleurs, il est président depuis très très peu de temps, donc il faut lui laisser un minimum le bénéfice du doute. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette décision à la fois de créer la garde nationale et donc de la placer d'une part sous l'autorité et sous le commandement
du ministère de la Défense.
Je suis pas dans la tête d'AMLO. En revanche, je pense que c'est un sujet qui est très peu traité sur le Mexique. C'est l'influence politique de l'armée et l'influence très forte de l'armée dans la décision de déployer ou non des forces dans le pays. AMLO, lui, se justifie en disant que les forces de police sont effectivement très peu professionnelles, très corrompues. On peut dire exactement la même chose des forces armées, que ce soit l'armée de terre ou la marine qui sont déployées depuis 12 ans. Donc ce qui choque, effectivement, c'est d'avoir pris le contre-pied de ces promesses et surtout de s'engager dans une voie qui n'a montré aucune amélioration sur les 12 dernières années. Au contraire, la violence ne fait qu'augmenter. Effectivement, les forces armées ne peuvent pas être tenues responsables de l'augmentation totale de la violence, mais elles jouent un rôle.
Mais elles ont participé. On va y revenir et pour justement essayer de comprendre justement cette mécanique. Mais je reste sur ce projet de guerre nationale. Il a promis AMLO de soumettre cette idée à une consultation populaire. Est-ce qu'il va le faire? Et la question qu'il y a derrière, c'est s'il le fait, est-ce qu'effectivement les Mexicains peuvent le suivre sur ce point-là? Vous le dites, c'est le sujet en débat depuis plus d'une décennie au Mexique. Est-ce que les Mexicains vont être favorables à cette idée de la création d'une garde nationale, sachant que cette stratégie de militarisation de la lutte est un échec, on le voit?
Alors, est-ce qu'il va faire le référendum
C'est une consultation, c'est pas un référendum.
Une consultation. Je pense qu'il finira par la faire. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'y compris au Parlement, au Congrès, vous avez des vraies tensions sur le débat sur la garde nationale. Est-ce que les Mexicains seraient prêts à soutenir une telle politique? Je dirais probablement oui, y compris parce que l'armée jouit encore d'un certain prestige, jouit encore d'une certaine image qui est parfois démentie par des sondages, parfois démentie par certaines enquêtes, mais il y a quand même une certaine image, encore une fois, de l'armée comme étant plus fiable, moins corrompue, étant d'une certaine façon une garante d'un État qui fonctionne, d'un État fort qui fonctionne, mais d'un État qui fonctionne quand même. Et d'une certaine façon, AMLO reprend énormément de ces arguments quasiment populaires, je dirais, sur l'armée, qui est de dire que l'armée est la seule à même de régler les questions de violence du pays en ce moment.
Revenons 12 ans en arrière, fin 2006, le président Felipe Calderón mobilise les forces armées pour lutter contre le narcotrafic, considérant que les polices locales avaient échoué, qu'elles étaient soupçonnées de collusion avec les réseaux de criminalité. Le bilan de cette stratégie, Romain Lecourt Grandmaison, 12 ans après, les effets de cette montée en puissance de l'armée dans le paysage sécuritaire du pays?
Les effets, je pense qu'ils sont graves, ils sont multiples et ils sont surtout impossibles à régler dans un délai court. Aujourd'hui, vous avez un pays, donc encore une fois, dont les chiffres de la violence, c'est quand même plus de 250 000 morts en 12 ans, c'est considérable. Il y a officiellement plus de 35 000 disparus, ça c'est les chiffres, encore une fois, officiels. Et surtout, si vous prenez le rôle précis de l'armée, je pense que ça participe de plusieurs dynamiques. La première, c'est tout bêtement militariser le pays, ça veut dire quand même provoquer une escalade dans l'équipement militaire, que ce soit du côté des forces armées, du côté de la police, mais aussi du côté des groupes criminels qui suivent cette militarisation en s'équipant notamment d'armes de guerre et de matériel eux-mêmes militaire, avec des relations très poreuses avec les forces armées. L'autre conséquences assez dramatiques. Ce sont les pratiques de violence qui viennent de l'armée. Ces pratiques, elles ne sont pas récentes. Ce sont des pratiques qui souvent dérivent de formations qui datent y compris des années 60, 70, tirées notamment de la formation en contre-insurrection de l'époque de la guerre contre les guérillas communistes qui continuent d'être utilisées. Vous avez une formation de l'armée qui est profondément dysfonctionnelle dans les tâches de police. L'armée n'est pas formée ni à arrêter les gens, ni à enquêter sur des crimes. L'armée est avant tout formée pour répondre violemment à des circonstances violentes. Et oui. C'est ce qu'elle fait.
Et puis ce qui s'est passé aussi, parce que quand on regarde un peu les quelques papiers qu'il y a eu, les éditos qu'il y avait au début de cette opération, de cette militarisation de la lutte contre le narcotrafic, il y avait un certain nombre de voix qui s'élevaient pour dire que c'était une réussite. Et de fait, il y avait effectivement l'élimination d'un certain nombre de chefs de cartel, etc. Donc dans les premiers temps, il y a eu de vrais succès. Sauf que ce que ça a provoqué, c'est que ces éliminations ont provoqué des guerres de succession absolument terribles au sein des différents groupes, des rivalités qui se sont exacerbées et qui ont fait ensuite exploser encore plus la violence. C'est-à-dire que ça a été l'effet qui se coule, le terrible effet qui se coule de cette première vague qui était au départ en tout cas un succès.
Il y a eu effectivement une série de succès dans la mesure où de grands leaders du narcotrafic sont arrêtés. Ça, c'est indéniable. Malheureusement, au-delà des guerres de succession, c'est souvent cette stratégie qui est baptisée la Kingpin stratégie, qui est notamment inspirée, encore une fois, par les États-Unis et appliquée d'abord en Colombie dans les années 80 et 90 contre les grands leaders de cartels. C'est une stratégie qui ne règle en rien ni les causes profondes de la violence, ni les conséquences de l'utilisation de cette violence sur le terrain. Au contraire, encore une fois, je pense qu'il faut être tout à fait lucide sur l'impact qu'a, par exemple, l'arrestation, y compris d'El Chapo, dont c'est le procès en ce moment à New York. Je pense que les conséquences sur le terrain au Mexique, elles peuvent être fortes dans une guerre de succession, elles peuvent être fortes dans une violence déclenchée entre des groupes, mais je pense pas que ça change grand-chose sur les équilibres de puissance sur le terrain.
C'est ce qu'ont montré de toute façon les années qui ont suivi. Il y a un autre élément peut-être, qui est peut-être une conséquence, mais vous allez me le dire, de cette militarisation de la lutte, c'est l'expansion géographique des violences. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, certaines villes, certains territoires qui étaient un peu épargnés. Aujourd'hui, quand on regarde les choses, la violence, elle s'est considérablement étendue. Or, si on regarde par exemple la station balnéaire d'Acapulco dans l'état du Guerrero, aujourd'hui c'est devenu quasiment la capitale du crime au Mexique, alors qu'il y a encore quelques années, c'était pas un havre de paix, mais en tout cas, la situation était à peu près maîtrisée. Même Mexico, d'une certaine manière, était épargné il y a encore quelques années, aujourd'hui est aussi le théâtre de ces violences. Est-ce que cette extension territoriale de la violence, c'est aussi le résultat de cette militarisation?
Alors, je ne sais pas si c'est le résultat direct. Je pense que les dynamiques sont articulées, voire concomitantes. Je pense qu'il y a un surinvestissement de la violence au Mexique. Ce surinvestissement, il vient à la fois de l'État mexicain qui produit une quantité de violence absolument considérable, et il provient évidemment de ces groupes criminels qui sont, comme vous le disiez, très variés, très étendus géographiquement, mais aussi le cadre de disparité assez profonde. Les groupes criminels qui opèrent dans l'état du Guerrero ne sont pas les mêmes, par exemple, que ceux qui opèrent à la frontière avec les États-Unis. C'est à la fois pas les mêmes réseaux, c'est à la fois pas les mêmes activités criminelles, pas les mêmes revenus criminels. Et c'est, je pense, cette diversification dans des activités illicites qui provoque aussi cette dispersion de géographique de la violence au Mexique, et qui touche aujourd'hui effectivement des régions qu'on n'était pas du tout habitué à avoir mentionnées sur les statistiques de la violence, sans qu'on sache complètement pourquoi non plus elles sont aujourd'hui aux prises avec des flux de violence extrêmement importants.
Alors depuis 2006, on le dit, tous les gouvernements qui sont succédés ont porté cette politique de militarisation de la lutte contre la criminalité, confiant donc à l'armée et à la police fédérale, mais essentiellement à l'armée, les rênes de cette pacification de la société. Et non seulement ça n'a pas marché, mais en plus, ça s'est fait aux dépens des moyens sécuritaires locaux. C'est-à-dire que cette centralisation de la réponse, elle a provoqué un affaissement des polices locales et municipales. Et pour vous, et vous le disiez d'ailleurs dans un papier, je crois que c'était dans AOC, si ma mémoire est bonne, qu'il fallait absolument effectivement, il y avait urgence à sortir de ce modèle sécuritaire centralisé. Que propose précisément AMLO pour renforcer les institutions civiles de sécurité? Il y a effectivement cette garde nationale, mais est-ce qu'il y a aussi des efforts qui sont faits pour renforcer les moyens qu'on va donner aux polices municipales, aux polices locales? Il faut rappeler que le Mexique, c'est une république fédérale, que donc on a des États fédérés, etc. Et donc une police fédérale, mais aussi des polices locales, des polices... Donc c'est un paysage un peu particulier, mais est-ce qu'il fait aussi des efforts pour ces polices locales?
Écoutez, a priori, non. Ce que fait AMLO aujourd'hui, finalement, c'est reprendre avec, sous un nouveau label, qui est celui de la garde nationale, des idées, comme vous le disiez, qui avaient été proposées d'abord par Calderón entre 2006 et 2012, puisque Calderón a dit « je vais créer une police fédérale sur le modèle du FBI américain, notamment ». Ce qu'il a fait, et je le dis pas par corporatisme, mais c'est une force qui, avec tous ses défauts, compte quand même, contrairement à ce que disait AMLO tout à l'heure dans son discours, qui compte a priori 36 000 hommes et femmes sur le terrain. C'est une police qui est quand même relativement bien formée. C'est un investissement public financier qui est considérable. C'est plusieurs milliards de dollars d'investissement qu'AMLO a décidé de mettre de côté aujourd'hui. Ensuite, Peña Nieto a été élu en 2012.
La police fédérale est particulièrement bien formée? Parce la que police vous disiez l'inverse, justement, dans l'article d'AOC que je mentionnais tout à l'heure.
Non, les polices municipales et fédérées sont extrêmement mal formées.
D'accord.
La police fédérale reste un corps civil, donc, un corps de police, et c'est la grosse différence quand même avec la garde nationale aujourd'hui, qui sont des agents, encore une fois, avec plein de défauts tout à fait systémiques au Mexique, mais qui sont bien formés et qui sont notamment formés à des tâches de police, c'est-à-dire à des tâches d'enquête de police, à des tâches de patrouille de police, à des tâches de rapprochement avec la population, qui ont prouvé 1000 dysfonctionnements, évidemment, mais qui partent quand même d'une démarche civile, d'institution civile de sécurité publique. La grosse différence avec la garde nationale aujourd'hui, qui reprend beaucoup, en fait, d'idées de Peña Nieto, qui lui avait décidé de...
Qui était l'ancien président.
L'ancien président de 2012 à 2018.
Absolument.
Qui lui avait dit, je ne vais pas reprendre la politique de Calderón et je ne vais pas soutenir la police fédérale, je vais créer ma nouvelle force de police, non pas sur le modèle du FBI, mais sur le modèle de la gendarmerie française, notamment. Et donc, il a créé une gendarmerie nationale mexicaine. Enfin, il a voulu la créer. Il avait annoncé, comme AMLO d'ailleurs l'annonce aujourd'hui, entre 30 et 50 000 recrutements. Il y en a eu, je crois, 4 000 en l'espace de 6 ans. C'est une force qui n'a jamais vraiment existé. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que fait AMLO, c'est un espèce de mélange entre toutes ces approches, en délaissant énormément l'échelon local, qui, à mon sens, est l'échelon le plus critique aujourd'hui au Mexique, et en poursuivant cet effort très centralisateur, comme vous le disiez, dans un pays fédéral, un espèce de fantasme centralisateur qui dirait que le gouvernement fédéral serait le seul à même de prendre des décisions importantes pour l'échelon local.
Mais pourquoi vous parlez de fantasme fédéral? Après tout, on pourrait se dire aussi qu'il le fait parce qu'il n'a pas d'autre choix. Est-ce que c'est seulement une question de volonté politique? Est-ce que finalement, faisons l'hypothèse qu'effectivement c'est ça la solution qu'il faudrait préconiser pour améliorer la sécurité du pays, à savoir décentraliser les choses, mettre le paquet sur les polices locales, est-ce que le Mexique a tout simplement les moyens de le faire? Est-ce que les États ont les moyens humains et financiers de le faire?
En l'occurrence, je pense que ça va au-delà de la décentralisation. Ça va surtout dans une optique de coordination entre les différentes institutions et entre les différents échelons politiques et administratifs. De fait, aujourd'hui, on a l'impression que le Mexique est engagé dans un sentier qui est systématiquement présenté comme la seule option viable. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'autres options viables. C'est exactement ce qu'a fait AMLO en arrivant. Il avait dit qu'il mettrait l'armée de retour dans les casernes. Il a fini par dire, vous savez, il n'y a pas d'autres options viables. Il n'y aura pas d'autres options viables. Je pense que c'est comme vous le disiez, ça reste un choix politique. On pourrait faire le choix inverse. On pourrait faire un autre choix. Malheureusement, AMLO a a l'intention de se lancer dans un choix qui est assez cohérent avec ce qui a été fait depuis 12 ans et qui, ça c'est pas moi qui le dis, ne porte pas vraiment ses fruits.
Alors, si ce choix a été fait, c'est aussi parce qu'il y a une vraie défaillance au niveau des polices locales. Pour comprendre justement cette défaillance, on va s'intéresser à une affaire en particulier qui a été extrêmement médiatisée, c'est les enlèvements des étudiants d'Iguala dans l'état du Guerrero, sur la côte pacifique, hein, au sud de Mexico. On est en septembre 2014, il y a une quarantaine d'étudiants qui partent pour une manifestation contre le gouvernement, sauf qu'ils n'arriveront jamais à destination, qui seront tués, leurs corps brûlés, et puis pour une partie jetés dans une décharge. Avant de revenir sur cette affaire, je propose d'écouter la déclaration du commissaire à la sécurité nationale aux conférences de presse, et ça va nous permettre aussi de comprendre justement comment est-ce qu'on disqualifie d'une certaine manière les polices locales pour les remplacer par la police fédérale et par l'armée. Voilà exactement comment ça se passe.
Los policías municipales.
Les policiers municipaux encore en service ont été désarmés par le ministère de la Défense, qui a réalisé une révision des permis de détention d'armes à feu qui ont été placés sous contrôle dans des installations militaires. Dans ces circonstances, la police fédérale, à travers la gendarmerie, assume à partir d'aujourd'hui la sécurité publique de la ville. Si les conditions spéciales le demandent, elle comptera avec l'aide de l'armée mexicaine.
Donc voilà comment ça se passe très concrètement. On arrive dans un poste de police, on arrête tout le monde et puis on remplace les gens par des policiers fédéraux. Voilà un cas pratique, mais c'est fait Iguala, mais en fait ça s'est fait dans énormément de villes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots, j'ai rappelé les événements, mais cette affaire d'Iguala, ce qu'on en sait aujourd'hui, parce qu'il y a des enquêtes, il y a plusieurs versions, tout le monde n'est pas d'accord, et surtout ce que cette affaire nous révèle justement de ces défaillances dont on parlait de la police locale, parce qu'une fois encore, c'est pas un hasard si évidemment, il y a eu ce désir de remplacer les polices locales par l'armée. C'est parce qu'il y avait de réelles défaillances, de réels problèmes. Romain Lecour, Grand Maison.
Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé effectivement à Iguala ce jour-là est encore assez peu clair. Ce qui est sûr, c'est que les 43 étudiants ont disparu. On ne sait pas très bien ce qui leur est arrivé, mais on ne les a jamais retrouvés, ni leur corps. Ce qui se passe avec la police locale à Iguala, et c'est effectivement le cas dans énormément de municipalités au Mexique, c'est que vous avez des policiers municipaux qui sont d'une part absolument pas professionnels, dans le sens où vous pouvez être policier municipal de 8h à midi et vous pouvez avoir un autre emploi de midi à 17h. Vous n'êtes pas formé, c'est un emploi comme un autre. C'est un des emplois les moins bien payés aujourd'hui dans les institutions publiques mexicaines. Vous n'êtes absolument pas équipé pour lutter contre des logiques de violence telles qu'elles existent aujourd'hui au Mexique. Et dans le cas d'Iguala, ce qui est révélé, c'est que vous avez donc cette police municipale sur qui on rejette la faute, hein, notamment politiquement, puisqu'on l'accuse d'être au service de l'autorité publique et politique du maire d'Iguala. L'argument qui avait été avancé, c'était que le maire d'Iguala de l'époque contrôlait la police municipale et qu'elle se comportait comme une police privée, finalement, au service du maire qui lui faisait faire ses basses œuvres.
Sauf qu'il y a un autre acteur là que vous oubliez de mentionner, c'est qu'effectivement il y a ce maire d'Iguala qu'on soupçonne effectivement d'avoir commandité cet enlèvement, mais ensuite les fameux policiers municipaux auraient livré, j'utilise le conditionnel, auraient livré ces jeunes étudiants au cartel, à un cartel, le cartel des Guerreros Unidos, qui les aurait ensuite, c'est ce qui se dit, confondu avec un cartel rival et qui les aurait tués. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a finalement là une situation où les narcotrafiquants sont quasiment les supplétifs des policiers.
Absolument. Ou l'inverse d'ailleurs. Ou alors les policiers municipaux sont les supplétifs des narcotrafiquants. C'est-à-dire que ça arrive énormément, et ça c'est observable sur le terrain malheureusement assez régulièrement, c'est que vous avez des policiers municipaux qui par exemple procèdent aux arrestations d'individus sur ordre d'un groupe criminel local, pour que l'arrestation soit faite, par exemple, dans l'espace public et ressemble à une arrestation tout à fait officielle et légale. C'est la police municipale qui vous arrête et ensuite vous êtes remis au moins d'un groupe criminel. C'est exactement ce qui s'est passé à Iguala. Ce qui est très difficile à détricoter sur le terrain, ce sont les liens de cause à effet entre des relations qui existent entre la population, des groupes criminels, des autorités politiques et la police. ce qui se passe dans la police, encore une fois, la police locale, la police municipale, ce sont les gens de la même municipalité. Si vous êtes policier municipal à Iguala ou dans une région plus reculée du Guerrero, vous êtes originaire, vous travaillez en tant que policier municipal dans la communauté dont vous êtes originaire. Ça vous expose forcément à des groupes criminels, ça vous expose aussi à des autorités politiques qui, dans la mesure où vous êtes à la fois très vulnérable parce que votre famille vit sur le territoire et très vulnérable financièrement parce que vous êtes sous-payé, à des pressions absolument considérables de la part de groupes d'influence qui opèrent, encore une fois, dans la région dont vous êtes originaire et où vous vivez. Et je pense que c'est là que les groupes sont extrêmement, extrêmement vulnérables. Les groupes, au sens de la police municipale, et les groupes criminels sont extrêmement forts. C'est que la police municipale, on la dénonce comme étant très corrompue et très vulnérable. Je pense que c'est une formule assez tautologique pour reprocher quelque chose, un état de fait que l'autorité publique elle-même finit par provoquer. Si vous sous-payez des policiers municipaux, si vous ne les formez jamais, il n'y a aucune chance qu'ils puissent être en mesure de faire le travail qui leur incombe.
En tout cas, ce qu'on voit bien là dans ce cas, c'est qu'on a finalement ce jeu à trois acteurs, à savoir le politique, le policier et puis le narcos, qui est en fait un classique malheureusement du scénario macabre mexicain. Sur le plan de la justice, où en est justement la justice sur cette affaire? AMLO a annoncé, c'était juste après son investiture, donc le nouveau président mexicain, la mise en place d'une nouvelle commission chargée de faire la lumière sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui?
Il faut attendre, d'une part. Je pense que c'est vraiment important qu'on attende de voir ce qu'elle va faire avant de juger. Malheureusement, les faits, comme vous le disiez, remontent à plusieurs années. Ça va être très très dur de tirer la lumière sur cette affaire. Ces dernières années, il y a eu plusieurs commissions, y compris indépendantes internationales, qui ont travaillé sur le cas, qui sont venues enquêter au Mexique, qui ont rendu des conclusions tout à fait contradictoires avec ce que le ministère public mexicain avait annoncé. Il faut espérer que cette commission judiciaire mexicaine indépendante fasse le travail qu'on attend finalement d'un pouvoir judiciaire classique, c'est-à-dire d'être capable d'enquêter de façon indépendante.
Et au-delà de ce cas particulier des enlèvements d'Iguala, est-ce qu'il y a un plan plus général du nouveau président mexicain pour lutter contre l'impunité? Parce que ça, c'est l'autre drame, évidemment, du Mexique. Il y a évidemment ces violences, il y a évidemment cette corruption, mais il y a derrière une justice qui, en réalité, ne fait pas son travail. D'abord, dans la très grande majorité des cas, quand il y a violence, on ne porte jamais plainte, dans plus de 90% des cas, et lorsqu'on porte plainte, il est très très rare que ça aboutisse à des condamnations. Donc là, il y a un vrai problème aussi au niveau de la justice. C'est quoi le programme pour AMLO pour rectifier le tir?
Alors, effectivement, je pense que ce qui domine et ce qui lie absolument tous ces sujets, c'est le niveau d'impunité du pays aujourd'hui et le dysfonctionnement du pouvoir judiciaire. Comme vous le disiez, au Mexique, il y a 96% des délits qui ne sont jamais reportés. Et de ceux qui sont reportés, il y en a 97% qui ne sont jamais enquêtés. Donc autant dire qu'il n'y a quasiment aucune enquête judiciaire dans un pays comme le Mexique. Ce qu'a fait AMLO, et qui est un peu une révolution au Mexique, c'est de suivre en l'occurrence un modèle assez états-unien, de créer un juge fédéral national. C'est-à-dire c'est sur le modèle de l'Attorney General of the Nation aux États-Unis. Vous avez ce nouveau fiscal général au Mexique qui remplace jusqu'à maintenant un ministère public qui fonctionnait avec des sous-divisions locales. Donc il a créé cette nouvelle entité avec cette idée que si elle est déconnectée d'influence locale, elle sera plus impartiale. Ce qui était quelque chose qui était très demandé par la société civile. Donc on va voir, encore une fois, il vient d'être annoncé. Donc il faut attendre un peu avant de voir comment ça marche. En revanche, là où il a apparemment pas avancé pour le moment, c'est par rapport au programme de lutte contre la corruption. Il y a quelques années, Peña Nieto, l'ancien président, avait annoncé la création, là encore, d'un ministère public spécialisé sur les affaires de corruption. Le ministère a été créé, mais le juge n'a jamais été nommé. Donc vous avez l'institution publique qui existe, mais le juge n'a jamais été nommé. Donc vous avez une institution publique rutilante, qui a probablement coûté par ailleurs des centaines de millions de pesos
mais
à installer,
mais
qui ne fonctionne pas, ce qui est souvent malheureusement le cas.
On va essayer de revenir dans quelques instants sur cette question de la corruption. On est avec vous, Romain Lecourt, Grand Maison, sur cette série consacrée à la police, aujourd'hui de Mexico à Rio, quand les flics se font gangsters, et on va prendre justement la direction de Rio.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Parce que ces dernières années, le Brésil aussi a vu proliférer sur son territoire des groupes de miliciens, en particulier à Rio. L'année dernière, il s'était notamment illustré à Rio en assassinant en pleine rue Marielle Franco, conseillère municipale, militante féministe, militante de la cause noire LGBT. Marielle Franco dénonçait le pouvoir justement des milices et des groupes militaires qui contrôlent les quartiers de la ville. Et même s'il sera probablement impossible de retrouver les responsables de sa mort, tout porte à croire qu'ils pourraient bien être des membres de ce qu'on appelle là-bas la milice.
On a été découvert le 14 à 21h. Et on est resté 6-7 heures pendant lesquelles on a subi tout type de torture. Avec un sac, des électrochocs. Pendant tout ce temps, ils ont eu accès à nos emails. Ils ont découvert toutes les informations qu'on avait récoltées pour le journal. Ils avaient déjà mis feu à des pneus dans une autre favela. Ils attendaient juste d'emmener nos corps là-bas et de les brûler dedans. Donc on est vraiment les premiers torturés à être sortis vivants.
Voilà, témoignage d'un photoreporter du journal Odia, journal brésilien, extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur France 24 en octobre dernier. On va retrouver depuis le Brésil, Luciana Arojo de Paola. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. On va commencer avec un peu de définition. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la milice à Rio? Qui sont ces groupes criminels qui ne sont pas les mêmes que ceux qui contrôlent le narcotrafic? C'est autre chose encore.
Non, en fait. Les milices, en fait, c'est des groupes qui se sont formés il y a longtemps. On peut dire que Au tout début, dans certaines communautés, plutôt vers la zone ouest de Rio de Janeiro, il y avait des groupes qu'on appelle un peu, ce qu'on peut voir en Amérique latine aussi, des groupes d'autodéfense communautaire, c'est-à-dire des habitants de ces communautés qui étaient complètement oubliés par l'État central, ça vers les années 70-80, au moment de la construction d'un quartier riche de Venezuela qui s'appelle la Barra da Tijuca, donc aussi plutôt vers la zone ouest, mais près à côté de la mer. Donc ces habitants de ce quartier qui s'appelle Rio das Pedras, c'est très important pour la suite, en fait, vont commencer à s'organiser et créer une sorte de communauté totale. Ils travaillent dans la construction de ce quartier, en même temps, autodéfendait des petits criminels communs qui commençaient à apparaître dans les années 80 et qui va avoir une énorme reconfiguration des années 90 avec l'entrée de la drogue plutôt dure, la cocaïne, et le renforcement aussi du trafic de drogue. Donc à partir de là, on a une reconfiguration de ces groupes qui commence petit à petit à être composé par des policiers locaux qui commencent à prendre la protection de ces groupes qui avant étaient des civils et des habitants.
Voilà, ça c'est la grande spécificité. C'est la grande spécificité de ces groupes, c'est qu'on y trouve aussi des policiers. Voilà le trait particulier de ces fameuses milices. La question qui se pose maintenant, c'est le relais politique dont ils jouissent. Est-ce qu'ils parviennent à exercer et comment leur influence au niveau des conseils municipaux et peut-être même au niveau du Parlement brésilien? Qu'est-ce qu'on en sait?
Voilà, donc en continuant cette histoire, à partir des années 2000-2002, ces groupes commencent à s'élargir, et toujours dans la zone ouest, et ils commencent petit à petit à gagner plus de pouvoir politique, c'est-à-dire d'établir des relations clientélistes avec les associations communautaires locaux. Donc il y aura toujours dans ces communautés un bras politique et un bras armé de ces groupes, toujours composé aussi par des policiers, soit locaux, soit qui vont être des autres communautés, qui vont établir des relations avec des policiers locaux, mais qui commencent à contrôler petit à petit, gagner donc un pouvoir politique très fort, puisque au Brésil, on sait très bien qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les agences électoraux qui se forment depuis des années, hein, c'est historique au Brésil, et ces miliciens, en fait, ils vont devenir la milice, à la base encore, ils sont des autres des centres communautaires, il faut dire entre guillemets, hein, mais quand ils commencent à avoir justement les pouvoirs politiques aussi, c'est-à-dire à réussir à élire des propres miliciens à l'Assemblée de l'État de Rio de Janeiro, c'est-à-dire avec, en tant que conseiller municipal ou en tant que député, bah, là, ça commence en vraie reconfiguration où il y a vraiment des policiers qui ont un double rôle, donc ils sont des miliciens et policiers, et qui vont combattre, c'est leur discours de délégitimation, ils vont combattre le trafic des drogues.
Oui, donc on comprend parfaitement que finalement, ils sont parvenus à pénétrer ce pouvoir politique. La question qui se pose maintenant, en regardant un tout petit peu l'actualité, parce que quand on regarde les journaux brésiliens en ce moment, on a des informations qui sont diffusées très régulièrement à propos de liens possibles entre ces milices et le fils du nouveau président, Flavio Bolsonaro, lui-même député depuis de longues années. Il aurait décoré, c'est ce que nous disent les médias brésiliens, un chef de milice il y a une quinzaine d'années. Il aurait même employé son épouse en tant qu'assistante parlementaire. Qu'est-ce qu'on sait de ces soupçons? Et surtout, est-ce qu'il faut en conclure qu'au fond, le nouveau pouvoir brésilien, donc l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, hein, est-ce que ce nouveau pouvoir, il a des liens privilégiés avec ces milices et que par conséquent, au fond, Jair Bolsonaro va leur permettre de continuer à exercer leur pouvoir et leur influence sur les quartiers?
Complètement. Je pense que ça, c'est ça ce qui se déroule, en fait. On commence déjà à voir ces panoramas-là parce que, déjà, au tout début de cette histoire, hein, de ce scandale qui commence à sortir, Flavio Bolsonaro, donc le fils de Jair Bolsonaro, qui était député à Rio de Janeiro pendant 10 ans, il a son bras droit, en fait, un homme, son bras droit, qui est aussi quelqu'un qui va de confiance, qui c'est Fabrício Queiroz, donc, qui c'est quelqu'un très important dans cette affaire, puisque Fabrício Queiroz, c'est les liens directs, en fait, entre les clans Bolsonaro, la milice, à Rio, mais notamment la milice de Rio das Pedras, justement, cette première communauté dont je vous ai parlé, qui est la communauté la plus forte à Rio de Janeiro, la milice la plus forte, et qui, en fait, cette milice a été, la semaine dernière, en fait, enquêtée et les principaux leaders ont été arrêtés. Et parmi ces leaders, il y a un ancien capitaine du BOP. BOP, c'est un bataillon d'opération de la police militarisée à Rio de Janeiro, qui, en fait, est à la tête d'un département, du bras armé de cette milice qui s'appelle les bourreaux du crime, qui tient un groupe de tueurs spécialisés dans l'élection professionnelle. Sauf que ce monsieur-là, Adriano, qui est le chef de ce département, est le principal suspect de la mort, donc de la exécution de Marielle Franco.
De Marielle Franco dont je parlais.
Parce que ce monsieur-là, sa mère et son épouse ont travaillé pendant 10 ans aussi au cabinet de Flavio Bolsonaro. Ils ont mouvementé, il y a eu beaucoup de transactions d'argent d'entrée et sortie des comptes bancaires des Fabrício Queiroz, donc les bras droits de Flavio Bolsonaro.
Ce qu'on comprend parfaitement, c'est qu'effectivement, il y a des liens visiblement entre ces groupes et le pouvoir politique brésilien actuel. Il y a un autre élément d'ailleurs qui montre que Bolsonaro n'a pas l'air très enclin à s'en prendre aux milices, c'est le démembrement de la DRACO, qui est le département régional d'affaires criminelles organisées, qui avait la charge d'enquêter justement sur ces milices, donc on voit bien que Bolsonaro n'a pas l'intention d'affaiblir cette milice. Merci beaucoup, en tout cas la ligne n'était pas excellente, mais on a compris l'essentiel. On voit, Romain Lecourt, Grand Maison, avec cet exemple brésilien, que ce qui est au cœur de tout cela, c'est la question de la corruption. Il faut s'en prendre à la corruption pour espérer faire baisser les niveaux de violence. Il faut s'en prendre impérativement à la corruption. Du côté du Mexique, si on revient au Mexique, qui est votre terrain à vous, qu'est-ce que fait justement le nouveau président? Quel est le plan, là encore, pour lutter contre la corruption? Vous évoquiez tout à l'heure le procès d'El Chapo, qui était un des principaux narcotrafiquants du pays. Il est en ce moment en procès aux États-Unis et c'est finalement le procès d'El Chapo, mais c'est le procès plus globalement de la corruption généralisée au Mexique. Il y a eu des révélations qui ont été faites qui sont absolument incroyables, notamment il aurait versé 100 millions de dollars à l'ancien président, mais il n'est pas le seul à avoir éventuellement touché de l'argent. Bon, tout ça, ce sont des hypothèses, hein, évidemment, tout le monde nie, mais on voit bien que c'est ça dont il est question. Qu'a prévu AMLO pour lutter contre la corruption?
Alors, ce qu'il a prévu, d'une part, et comme tous les présidents avant lui, ce sont des promesses de lutter contre la corruption. Ça, c'est le
mais ça, ils le disent tous.
L'annonce, voilà, l'annonce publique officielle. Malheureusement, sur le terrain, je pense que ça va être très, 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 très compliqué de lutter contre la corruption, notamment parce qu'il ne faut pas, je pense, comprendre la corruption comme allant uniquement dans un sens. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre la corruption si on considère que ce sont uniquement des groupes criminels qui corrompent les autorités. Vous avez la relation inverse qui se produit tous les jours. Surtout, je pense que la corruption au Mexique, malheureusement, elle est profondément systémique, au sens où vous avez des relations qui sont fondées sur des échanges de faveurs, des échanges financiers, des échanges clientélaires, des échanges de votes, de l'achat de votes. Ce genre de pratiques sont extrêmement répandues. Si on en reste à la question du trafic de drogue, le trafic de drogue irrigue des corporations, irrigue des groupes politiques, irrigue des relations locales à des niveaux d'argent qui sont considérables. Le vrai problème de la corruption, je pense, au niveau local aujourd'hui au Mexique, c'est ce que permet de faire la corruption. C'est-à-dire, sans la corruption, sans le financement par le trafic de drogue, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau local au Mexique? Notamment, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'autres alternatives économiques? Et je pense que, pour revenir très très rapidement sur ce que vous disiez au départ de cette conversation sur l'armée, je pense que le fait que l'armée fasse tout pour ne pas sortir du terrain mexicain, fasse tout pour ne pas sortir de la lutte contre la criminalité organisée, a trait au fait que l'armée est partie prenante à la corruption.
Merci en tout cas Luciana Adro de Paola d'avoir été en direct avec nous depuis le Brésil. On va s'intéresser à présent à la figure du policier et aussi à la question de la corruption que vous évoquiez à l'instant dans la fiction romanesque sud-américaine. On va retrouver dans un instant Nestor Ponce, mais d'abord l'une des grandes figures du polar mexicain, Paco Ignacio Taibo II.
Quand on vit dans une ville comme Mexico, qui est avec 20 millions d'habitants et la plus grande ville du monde, on se lève un matin et on découvre des choses du genre 18 enfants sont morts pour avoir mangé des chocolats trouvés dans la poubelle. L'ennemi numéro 1, c'est un flic. L'ennemi numéro 2, c'est un autre flic. L'ennemi public numéro 3, c'est aussi un flic. Et alors celui qui a l'obligation de prendre l'ennemi numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est le chef de la police de Mexico. Alors il est clair que la semaine suivante, celui-là va être l'ennemi public numéro 4. Alors, quand on est dans une réalité semblable, la littérature policière, c'est quelque chose entre le réalisme, le néo-réalisme et puis Kafka.
Voilà, l'ennemi public numéro un, le policier. On entendait Paco Ignacio Taibo lors du festival Étonnant Voyageur de 1992. On retrouve Nestor Ponce. Bonjour. Nestor Ponce, est-ce que vous m'entendez?
Oui, tout à fait.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivain argentin, professeur de littérature et de civilisation hispano-américaine à l'université de Rennes 2. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, de poésie, d'essais, de nouvelles, de romans. Vous aussi, vous avez quelques grandes figures de policiers. Je pense par exemple à celui qu'on retrouve dans La Bête des Diagonales, la figure du commissaire Roca, chargé d'élucider les mystères autour des méfaits d'un serial killer qui fait trembler la ville. Paco Ignacio Taibo II, c'est un auteur qui semble, en tout cas à vos yeux, avoir une place à part dans votre panthéon des auteurs latino-américains de romans policiers. Vous dites que son œuvre a constitué une rupture et qu'il a propulsé le genre dans une formidable modernité. Qu'est-ce qu'il a de si particulier à vos yeux?
À mon avis, c'est l'innovation. Donc il a changé un registre et il a créé un nouveau genre, ce qu'il appelle les néopolars. Donc, et les néopolars, il y a une influence du roman noir des États-Unis, mais en même temps, il y a une construction poétique. Et il a créé un personnage où il joue sur la parodie. Donc c'est un détective qui s'appelle Héctor Veloz-Cuarón Shane, donc qui est un personnage de rupture. Il est d'origine basque, et les Basques sont très contestataires vis-à-vis du pouvoir espagnol, et sa mère est irlandaise. Donc il y a une idée déjà dans le nom du personnage, où apparaît cette idée de rupture. Et dans ce texte, il y a une mise en question permanente de la situation politique, de la situation sociale du Mexique, Et c'est, disons, une constante hein, dans
son
œuvre.
Et quel est ce rapport, justement, de ce personnage, Hector Beloscarón Shane, donc ce détective privé qui est un ancien ingénieur diplômé d'une université américaine? C'est ce personnage qu'il a construit, Paco Ignacio Taibo II. Mais c'est quoi son genre de détective et quel rapport il entretient à la corruption? Est-ce que c'est plutôt du genre super flic incorruptible qui lutte contre le crime, ou est-ce que c'est plutôt l'anti-héros qui lui aussi a ses faiblesses et qui éventuellement peut se laisser corrompre?
C'est plutôt un anti-héros. Il ne fait pas partie de la police. Hein. Il est détective privé. Et au Mexique, il est impossible de penser un détective privé. C'est une société où le terme détective privé est inconcevable, parce qu'on ne peut pas vivre de cela. Sauf si on s'occupe des affaires, des corruptions, des problèmes de mœurs, des problèmes de mariage, de divorce. Donc, mais lui, il s'attaque à des éléments qui sont beaucoup plus profonds, et il fait en fait une peinture, hein, une fresque de la société mexicaine, où il montre tous les arguments de cette corruption. Donc c'est une construction littéraire où il essaie de démonter l'appareil de la corruption, et il met en rapport les partis politiques et la police. Mmh. Il a un essai où il raconte une anecdote. Et il dit, je connais une personne qui était chez lui, et on sonne à la porte, et puis un policier, et puis il dit, voilà, on a retrouvé votre voiture. Et la voiture, elle était devant chez lui depuis plusieurs jours. Alors il dit, voilà, il faut nous donner quelque chose maintenant, parce qu'on a retrouvé votre voiture.
Oui, d'accord. Vous écrivez d'ailleurs à propos du genre néo-policier, souvent le néo-policier adopte la forme du roman de la victime. Les anti-héros peuvent ainsi être des corrompus, des policiers ou des escrocs, des prostituées, des losers, des alcooliques, icônes d'une société qui se défait. Dans l'introduction de votre livre, Anthologie de la nouvelle noire et policière latino-américaine, vous revenez aux racines du policier hispano-américain, du roman policier hispano-américain, et visiblement, l'Argentine semble avoir une place un peu à part. Alors évidemment, tout au long du XXe siècle, tous les pays de la région vont produire du roman policier, mais en Argentine, ça vient très tôt, dans les années 1870, 1880, 1890, à peu près à ce moment-là. Pourquoi l'Argentine d'abord? Pourquoi l'Argentine est si propice à l'émergence de ce genre?
Je pense qu'il y a une influence de la culture européenne, donc en particulier la culture française. Et donc, c'est vrai, le premier texte, il a été publié, les premiers textes policiers en espagnol, hein, en langue espagnole, même avant l'Espagne, il a été publié en 1878. Et c'est un avocat qui a vécu en France et il situe son texte en France, justement. Et il le situe en France parce qu'il va prendre la France comme un modèle, un modèle des sociétés et des conceptions de la justice. Donc, il fallait appliquer un modèle pour lutter contre un État qui était en construction, mais qui n'était pas régulier, en fait.
Et puis vous racontez que un peu partout, évidemment, sur le continent, il va y avoir une inflation des romans policiers, notamment dans les années 50, 60. Mais c'est au milieu des années 70 qu'il va vraiment se passer quelque chose. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'auteurs qui, à ce moment-là, vont obtenir des prix. Et il y a une véritable éclosion du genre aux alentours de 1975. Pourquoi à ce moment-là précis? Est-ce que ça correspond au goût du public du moment, ou est-ce qu'il y a autre chose?
C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait un intérêt littéraire qui était très marqué par l'esthétique, et par la fiction, sans avoir une complicité avec la vie politique. Et le roman policier, c'est une sorte, comme dit un écrivain espagnol, Manuel Vázquez Montalbán, c'est le refuge des réalistes. C'est-à-dire que le roman policier va devenir une façon de parler de la société, de montrer ses problèmes, ce que vous disiez tout à l'heure, les problèmes de corruption, les problèmes de drogue aussi, et les problèmes de dictature. Parce que c'est une époque qui coïncide avec les dictatures dans l'hémisphère sud.
Vous restez avec nous, Romain Lecourt, Grand Maison. Avant qu'on commence cette émission, je vous confiais que je connaissais pas grand-chose à la littérature, aux romans policiers sud-américains. Et vous me disiez que vous, oui, et que vous aviez quelques références assez croustillantes en la matière, notamment un auteur mexicain.
Alors, c'est un auteur chilien, mais qui a produit toute son œuvre au Mexique, qui s'appelle Bolaño. Et je pense que Néstor Ponce pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais qui a, lui, dans un roman qui s'appelle 2666, qui est un pavé, s'ouvre sur la question des féminicides à Juarez, qui a été un cas extrêmement emblématique de violence donc, contre les femmes, des centaines de femmes dans la ville de Juarez, donc, qui est frontalière des États-Unis, de la ville d'El Paso aux États-Unis.
Qui est reconnue comme telle au Mexique, hein, le féminicide.
Absolument, qui est une catégorie reconnue juridiquement comme telle. Et lui ouvre ce roman fleuve sur cette contextualisation, sur la violence tout à fait contemporaine mexicaine, pour ensuite raconter une histoire qui va évidemment beaucoup plus loin, mais je pense qu'il met très bien en valeur justement, comme le disait Néstor Ponce, ces relations presque absurdes sur la violence, la police, la corruption, à travers cette anecdote de la police qui retrouve votre voiture qui est garée devant chez vous et à qui il faut donner quelque chose pour pouvoir accéder de nouveau à sa propre voiture.
Néstor Ponce, si vous aviez vous aussi un conseil de lecture à donner, alors moi je vais évidemment citer La Bête des Diagonales que j'évoquais tout à l'heure, qui était paru en 2006 aux éditions André Michand, ou dans lequel on retrouve justement votre fameux commissaire Roca, mais pour éclairer un peu les auditeurs qui ne seraient pas forcément très connaisseurs de ce genre, qu'est-ce qu'il faut lire?
Il faut lire... En Amérique latine, c'est un genre qui est dominant maintenant. Hein, le roman policier. Il y a un écrivain argentin qui s'appelle Mempo Giardinelli, donc qui est traduit en français. Et il dit, si on veut faire de la littérature au XXe et au XXIe siècle, il faut passer par le roman noir. C'est très provocateur, mais ça montre qu'il y a un intérêt... de dénoncer une situation, de parler de la situation sociale et de parler de ces problèmes de corruption entre politiciens et hommes politiques. Donc même pour Giardinelli, pour moi, c'est une référence. Je conseillerais aussi un écrivain argentin qui vit au Mexique. Ils ont créé un style qui s'appelle Argenmex. Donc c'est le mélange entre l'Argentine et le Mexique, qui s'appelle Rolo Diez, qui est traduit. Donc, il a des livres publiés dans les années 2000. Il continue à produire. Et puis, il y a, parce qu'on parlait de la frontière, qui est un autre problème au Mexique. Roberto Bolaño, effectivement, il traite ce sujet. Il y a un écrivain qui s'appelle Juan Hernández Luna, qui a publié un ouvrage en 98 qui s'intitule Tijuana Dream. Donc, les rêves de la ville de Tijuana.
Et ben voilà, et puis, quelques références. Allez, une toute dernière, alors, parce qu'on arrive au terme de l'émission, je sens que là vous êtes parti des Star France. Une toute dernière.
Donc la dernière, c'est, je vous conseille vivement, un dessinateur espagnol qui a publié en 2018, et qui est traduit en français, une histoire sur la corruption et la dictature en Argentine. Il s'appelle Ángel de la Calle. Et le titre, c'est Peinture de guerre. C'est un roman graphique.
C'est noté. Merci infiniment, Néstor Ponce. Et puis, on mettra également les références de vos ouvrages que j'ai évoqués, à retrouver, bien sûr, sur le site de Culture Monde. El aire tiene olor a que alguien prende la vela, hijita, no llegues tarde, Estelita. Faudra également mettre en référence cette très très belle voix que nous a dénichée Benjamin U, Diana Gameros. On mettra ça sur le site de France Culture. Merci Romain Lecourt Grand Maison de nous avoir éclairé aujourd'hui. Je rappellerai votre ouvrage co-dirigé avec Jacobo Grajales, L'État malgré tout, produire l'autorité dans la violence, chez Cartala, ça vient de paraître, là aussi référence sur le site. Merci infiniment. Dans un très court instant, 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous disiez hier que le but affiché par l'envoyé de Donald Trump, à savoir Steve Bannon, auprès des partis populistes européens, était d'obtenir pour leur parti le tiers des sièges au Parlement européen. Mais pourquoi le tiers?
Réponse de Marc Leonard dans un article qui est mis en ligne depuis hier. Primo, avec un tiers des eurodéputés, les populistes pourraient bloquer la mise en œuvre de sanctions contre les gouvernements qui violent les règles de l'Union européenne et qui bafouent l'état de droit. Et comme on sait, de telles sanctions menacent sérieusement aujourd'hui les gouvernements de la Hongrie et de la Pologne. En obtenant le tiers des sièges au Parlement européen, les partis populistes seraient donc en mesure de protéger leurs amis. Mais ils pourraient aller beaucoup plus loin. Par exemple, en faisant capoter les négociations budgétaires pour l'adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027, qui devrait être la première lourde tâche de notre futur Parlement européen. Certains de ces partis envisagent sérieusement de déclencher un shutdown à l'américaine, en privant la Commission de ses crédits pour lui briser les reins. Mais, fait observer toujours Leonard, avec un score de 33% ou plus aux élections européennes, les populistes obtiendraient mécaniquement des postes de commissaire européen et ceci ne se gênerait pas pour bloquer le travail de la Commission chaque fois que celle-ci tenterait des avancées. Plusieurs de ces partis étant très proches de Moscou, sinon franchement financés par Poutine, ils veilleraient à alléger les sanctions contre la Russie. Ces partis sont également hostiles aux accords commerciaux internationaux et aux mesures environnementales. Ils s'opposeraient donc à la signature de nouveaux accords et feraient en sorte de saboter l'accord de Paris sur le climat.
Et alors, qu'est-ce qui pousse Marc Leonard à envisager l'hypothèse selon laquelle les partis populistes de droite pourraient gagner le tiers des voix aux prochaines élections européennes ?
Il s'agit d'un sondage mené dans toute l'Union européenne par deux chercheurs du think tank European Council on Foreign Relations, qui sont Suzy Denison et Pavel Zerka, qui va être rendu public cette semaine, selon cette étude en effet. Il faut s'attendre à une très vigoureuse poussée des partis populistes de droite et au regroupement de leurs forces, aujourd'hui dispersées au sein du Parlement européen. Ce qui est attendu, c'est que les eurosceptiques votent assez massivement, alors que les europhiles risquent de s'abstenir. Le référendum sur le Brexit a démontré que les opposants à l'Union se sont déplacés beaucoup plus souvent pour aller voter que les partisans du maintien dans l'UE. Ensuite, il y a l'espèce de front commun qui est en train de se créer sous l'impulsion de l'envoyé de Trump, Steve Bannon, entre des gouvernants appartenant à la droite populiste, et en particulier Viktor Orban d'un côté, Matteo Salvini de l'autre. A priori, leurs pays ont des intérêts en contradiction, notamment sur la question migratoire, mais ils semblent être parvenus à des accords stratégiques pour miner les institutions européennes de l'intérieur. Officiellement, ces partis, comme d'ailleurs le Rassemblement National Français, ne prônent plus ni sortie de l'Union, ni abandon de l'euro. Ces slogans sont devenus bien moins populaires qu'il y a quelques années dans l'opinion. Non, ce qu'ils prétendent obtenir, c'est un rapatriement massif de compétences au profit des gouvernements souverains. Comme le fait remarquer Marc Leonard, la meilleure façon d'affaiblir l'Union européenne, c'est de miner la confiance qu'elle inspire encore à une majorité d'électeurs en privant de tout pouvoir ses institutions. En outre, dans plusieurs pays de l'Union européenne, il faut le savoir, ces élections au Parlement européen vont se dérouler la même année que des élections nationales. En Estonie et Slovaquie, ce sera juste avant. En Belgique et au Danemark, juste après. Les partis populistes comptent bien, dans les deux cas, bénéficier d'une vague d'euroscepticisme pour se rapprocher du pouvoir dans leur propre pays. En outre, estime Marc Leonard, ce qui rend l'affaire encore plus compliquée, c'est que les partis pro-européens apparaissent cette fois comme divisés sur des sujets essentiels. Libéraux, verts, chrétiens-démocrates ou sociaux-démocrates s'opposent sur des thèmes tels que le communautarisme ou la mondialisation. Rien n'est encore perdu, conclut Marc Leonard, mais pour éviter une déroute, les pro-européens doivent accepter les légitimes critiques que méritent les déficiences évidentes de l'Union européenne. Quant au président français, Leonard écrit que Macron est conscient du piège populiste, celui qui consiste à tenter d'enfermer les électeurs dans l'alternative patriote contre-mondialiste, mais, poursuit-il, il fait trop peu pour démontrer que sa politique peut permettre aux électeurs laissés pour compte de se sentir en sécurité face à la mondialisation et à l'intégration européenne. En théorie au moins, le macronisme représente la meilleure alternative pro-européenne au nationalisme atavique, mais pour éviter une révolution populiste en mai, Macron et les autres leaders européens devront s'adresser bien au-delà du cercle fermé des élites cosmopolites, sinon ils tomberont dans le piège des eurosceptiques. Fin de citation.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.